Il est actuellement attaché des hôpitaux Saint-Louis et Necker enfants malades à Paris. Ses spécialités sont chirurgie générale, viscérale, mais tout plus particulièrement chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Il est l'auteur de nombreuses publications dans des revues savantes, plus de 50 publications. Et il est membre de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, de l'International Society for Craniofacial Surgery, etc. etc. Je vais tout de suite lui transmettre la parole.
Ça marche. Merci, Monsieur Michaud. Après cette présentation un petit peu longue, nous allons entamer un domaine très vaste, extrêmement vaste. Et pour annoncer tout de suite la couleur, je ne vais pas vous parler de magie ce soir, je ne vais pas vous parler de résultats phénoménaux, de miracles. Nous allons parler seulement un petit peu de chirurgie. Il y a deux remarques préliminaires que j'aimerais faire en ce début de conférence. La première est un peu sur la forme. Les images sont très importantes en chirurgie plastique. Je vais donc vous en montrer. Je vais vous montrer des situations avant intervention, après opération. Je vais vous montrer également, et nous en avons discuté avec M. Michaud, que je remercie de sa confiance, des situations péropératoires au milieu des interventions pour comprendre un petit peu comment se passe la chirurgie plastique. Il y a donc quelques scènes qui peuvent être un petit peu crues pour des âmes sensibles. Et donc, je vous préviendrai le cas échéant. Normalement, après en avoir bien discuté avec des collègues et des gens non médecins, ça peut être regardé par tout public. La deuxième chose que je voudrais signaler, c'est que la chirurgie plastique étant un domaine extrêmement vaste, je viens de le dire, presque personne n'est capable d'en maîtriser avec expertise tous les pôles. Et j'ai donc fait appel pour des domaines qui étaient un petit peu plus lointains de mon activité régulière à des experts qui m'ont communiqué un certain nombre de documents. Je vais donc les citer. Et je pense que le fait qu'ils soient mentionnés contribue au fait qu'il y a donc un grand ensemble de choses qui sont regroupées derrière le vocable de chirurgie plastique. Alors, tout d'abord, et ça peut paraître élémentaire, mais dans la chirurgie plastique, il y a le mot « chirurgie ». Et j'ai souhaité, pour débuter cet entretien, rappeler Ambroise Paré, qui n'est d'ailleurs pas connu pour être un spécialiste de la chirurgie plastique en général, mais tout simplement un des pères de la chirurgie moderne. Et pourquoi est-il considéré comme tel? C'est parce qu'il a découvert, en cette fin de XVIe siècle, que la vascularisation des tissus était un phénomène primordial pour la survie des tissus biologiques. Quand on entend vascularisation, c'est l'apport du sang par des artères et le retour par les veines. Et alors qu'il a commencé, il est célèbre pour ses actions sur les champs de bataille avec de la chirurgie militaire, très reconstructrice mais très destructrice à l'époque, puisqu'on amputait à tour de bras, si j'ose dire, eh bien, il s'est rendu compte qu'il fallait lier les artères et les veines et non pas se contenter de brûler à l'huile bouillante les moignons d'amputation. Cette notion de vascularisation est primordiale dans la chirurgie plastique, qu'elle soit à visée reconstructrice ou à visée esthétique, parce que de la vitalité des tissus vont pouvoir dépendre la qualité des reconstructions et éventuellement des procédés très complexes vont être limités par des manques de vascularisation. Il est intéressant quand on lit son 23e livre, dans des traités très nombreux qui parlent à peu près tout, qu'il définit la chirurgie plastique comme étant un moyen et artifice d'ajuster, c'est en vieux français, mais j'essaye d'en comprendre le sens, d'ajuster ce qui fait défaut naturellement ou par accident. Et il y a deux notions importantes. La première, celle de défaut. Le défaut étant considéré plus dans un terme de perte de substance de tissu, plus que dans le défaut contraire de qualité, bien sûr. Et naturellement ou par accident, le défaut naturel est considéré à l'époque comme la malformation, qui est donc vraisemblablement une des causes les plus visibles à l'époque de ce qui pourrait constituer une nécessité de chirurgie plastique. Ou évidemment, par accident, ce sont les traumatismes de toutes sortes, y compris les traumatismes balistiques de guerre. C'est la première chose. Vous verrez que dans les causes de la chirurgie réparatrice aujourd'hui, ces deux causes sont minoritaires par rapport aux tumeurs qui représentent le recours numéro 1 à la chirurgie plastique. Et d'autre part, on peut voir des illustrations qui montrent bien qu'à l'époque, les procédés de manipulation des tissus étaient assez sommaires, puisque Ambroise Paré propose divers masques. Alors, il y en a plusieurs pages, une prothèse d'oreille, tout ce qu'on veut. Vous voyez, un masque avec des rubans. Ceci est pour recadrer cette chirurgie plastique à son état primitif de chirurgie. À quoi s'applique-t-elle ? Eh bien, vous le savez, il est souvent plus difficile de définir une chose en définissant par ce à quoi elle ne s'applique pas. Et elle ne s'applique pas aux viscères. Alors, ceci ramène à la définition de viscères. Les viscères sont considérés comme des organes situés dans des cavités. Alors, ce n'est pas compliqué, dans le corps humain, il n'y en a pas 36. Vous avez le crâne, avec l'équivalent viscéral qui est donc le cerveau. Vous avez la cage thoracique, qui est une cavité avec le cœur et les poumons, et la cavité abdominale avec les organes digestifs. Alors, la chirurgie plastique s'adresse à ces cavités et aux parois des cavités. Et quand on sous-entend ces parois, il s'agit bien évidemment de la peau qui les constitue, mais de la graisse, des muscles, de tous les plans biologiques, y compris l'os. On entend plus précisément aujourd'hui dans la chirurgie plastique des tissus mous parmi ces enveloppes. Mais l'os représente une enveloppe également, que ce soit sous la forme de plusieurs côtes ou d'une cavité comme la boîte crânienne. La chirurgie plastique s'adresse donc aux tissus du corps humain qui ne sont pas des viscères. Néanmoins, elles sont en contact étroit avec ces viscères. Et ceci est d'importance fondamentale, car il n'y a pas, et s'il y avait un message important à retenir, disons, de l'esprit de ce que représente la chirurgie plastique, c'est qu'il n'y a aucune opposition, il n'y a même une indissociabilité entre la fonction qui est représentée par l'organe et la forme, c'est-à-dire l'enveloppe qui la contient. Et vous voyez cette représentation d'artiste dans une des illustrations des reproductions d'Ambroise Paré, où on a donc l'organe et la forme qui sont symbolisés et qui sont indissociables. Il est bien évident, quand vous faites une chirurgie reconstructrice de la paroi du thorax, et que vous êtes donc en contact avec le poumon, qu'il faut connaître la physiologie du poumon et connaître même la chirurgie du poumon pour pouvoir faire une chirurgie de son contenu, de l'enveloppe de façon satisfaisante. Et la conséquence, c'est que la chirurgie plastique, là encore, qu'elle soit reconstructrice ou esthétique, on va voir que le côté reconstructeur et esthétique sont intimement liés et indissociables, eh bien, la chirurgie plastique est à l'interface avec de nombreuses autres disciplines. Alors, les exemples sont nombreux. On peut imaginer, enfin, c'est même plus qu'une imagination, il y a une interface réelle entre la dermatologie, qui est une discipline médicale qui traite des maladies de la peau, et la chirurgie plastique qui traite de la chirurgie de la peau. Il y a une interface évidente entre la gynécologie, par la pathologie des seins, et la chirurgie mammaire, qu'elle soit reconstructrice ou esthétique. Ce sont donc des grandes interfaces. Et puis, on peut dériver presque toutes les spécialités, la chirurgie digestive avec la chirurgie de la paroi abdominale. La réparation d'une hernie est également un problème de chirurgie réparatrice, au sens où la fonction de cavité abdominale doit être maintenu. Et il y a d'autres spécialités qui sont presque incluses en totalité dans la chirurgie plastique, par exemple la chirurgie maxillofaciale, qui en représente une partie de cette chirurgie plastique. Il y a évidemment des interfaces nombreuses. La chirurgie des maxillaires a un retentissement évident sur la morphologie de la face. Ces interfaces étant définies, cette notion fondamentale d'association entre la nécessité de restauration d'une fonction en même temps que d'une forme, sont des caractéristiques fondamentales de la chirurgie plastique. Alors, j'ai parlé des causes, et nous évoquions le mot « défaut », le mot adapté aujourd'hui, tout au moins en français, celui de « perte de substance ». Cette perte de substance, chez l'adulte, aujourd'hui, est le plus souvent provoquée par le chirurgien lui-même qui enlève une tumeur, dans le but de guérir. Et donc, avant même de parler de reconstruction, il y a une phase de destruction. Les anglo-saxons utilisent un mot qui est plus proche de défaut, puisqu'ils utilisent le mot de defect, qui a exactement la même connotation que perte de substance, dans ce sens-là. Une fois que vous avez enlevé un sein à cause d'un cancer du sein, la perte de substance doit être reconstruite. Et on reconstruit le sein. Chez l'adulte, les tumeurs, je viens de le dire, sont la cause numéro 1. Les traumatismes sont en régression actuellement, non pas parce qu'il y en a moins, mais parce que leur, disons, épidémiologie a changé. Soit on a de la chance, soit un airbag, une ceinture de sécurité, et on ne roule pas trop vite et il ne se passe pas grand-chose. Soit on est dans des conditions inverses, et quoi que vous avez des lésions viscérales qui sont généralement très graves. Quant aux malformations, elles restent la cause numéro 1 chez l'enfant. Elles sont heureusement de plus en plus rares, car elles sont dépistées et prévenues. Et le fait, par exemple, que les conditions socio-économiques, au moins dans les pays industrialisés, favorisent un certain environnement pour les grossesses, font que le nombre de malformations a diminué. Et donc le nombre et la nécessité de recours à ce genre de chirurgie est réduite. Néanmoins, elle demeure. Rappelons-nous que les fentes labiopalatines, ce qu'on appelait antérieurement les becs de lièvre, restent la première malformation de l'enfant, environ une pour 900 naissances en France et en Europe. Il y a des variations avec d'autres pays. En Asie, c'est notamment beaucoup plus fréquent pour des raisons génétiques. Une fois qu'on a en face d'une perte de substance, qu'elle soit faite par le chirurgien, comme dans ce cas-là, où une petite lésion du nez, qui était une petite tumeur, a été enlevée, il faut donc la réparer. Et la nature a quand même prévu un certain nombre de situations. La cicatrisation est quand même, biologiquement, ce qui permet, dans un certain nombre de cas, d'obtenir un résultat parfait. Alors, vous voyez, bon, c'est évident que c'est qu'un petit trou. Au bout de 5 mois, vous avez une cicatrice qui est réelle, mais qui est tout à fait acceptable. Il est de notre... C'est une connaissance qui, j'imagine, est assez empirique, mais maintenant qui a été plus théorisée, le devoir, nous, chirurgiens, de savoir nous abstenir d'opérer et de dire devant telle lésion à tel endroit, on peut ne pas opérer, on va juste vous faire des pansements pendant... Alors, c'est un petit peu plus long, mais au moins, ça vous permet de ne pas être opéré une deuxième fois. Et ma foi, c'est toujours ça de prix, pour vous, en tout cas. Donc la cicatrisation, ne l'oublions pas, est un phénomène fondamental. On va jouer avec, quand c'est possible, de s'abstenir d'opérer. C'est une règle d'ailleurs fondamentale en chirurgie. Nous devons nous poser la question à chaque fois que nous sommes devant un patient éventuel. Y a-t-il une possibilité de ne pas l'opérer? Et que ça soit mieux pour lui, bien sûr. Parmi les procédés de réparation... Les plus anciens correspondent aux greffes. Alors, il ne s'agit pas de greffe au sens transplantation d'organes. Il s'agit de greffe au sens prélèvement d'un morceau, d'un fragment de tissu ou d'une association de plusieurs tissus. Et cette greffe est prise à un endroit qui s'appelle le site donneur, où on va priver d'un morceau de tissu, et va être implantée à un autre endroit, le site receveur. Parmi ces techniques de réparation, les greffes rentrent dans ce qu'on appelle les transferts, c'est-à-dire on prend un morceau de tissu et on le transfère à un autre endroit. Alors vous allez me dire, et vous êtes en droit de penser, on va priver un endroit du corps, c'est bien joli, mais comment va-t-on le réparer? Alors l'astuce est évidemment, quand on déshabille Pierre pour habiller Paul, que Pierre ait soit un excès de vêtements, soit qu'il n'en ait pas besoin. Et il y a des zones du corps où on peut prélever, et soit ça cicatrise tout seul, soit il y avait un excès de tissu. Donc le fait qu'on ait fait un prélèvement ne gêne pas, ou en tout cas si ça gêne moins qu'à l'endroit où on en a besoin. Alors par exemple, la cuisse est un endroit où on peut prélever des greffes de peau. La technique n'a quasiment pas changé depuis 100 ans. Ce qui a changé, c'est la façon dont on prélève avec éventuellement un petit moteur électrique. Il est possible ainsi de récupérer des fragments de peau qui sont comme des feuilles, si vous voulez, très fines. Et la peau étant constituée de plusieurs couches, ceci importe peu, mais il y a plus ou moins d'épaisseur de derme. Et en fonction de l'épaisseur du tissu, de la peau en l'occurrence, elle va avoir des qualités pigmentaires particulières, de souplesse particulière. Il y a donc tout un tas d'exigences qu'il faut connaître. On peut éventuellement l'amplifier si on a besoin d'une grande surface, la passer dans une petite moulinette qui va faire des mailles comme un barésille et qui, à partir d'une certaine surface, va lui donner plus d'une surface supérieure. On peut greffer la peau, mais on peut greffer du cartilage, on peut greffer de l'os, on peut greffer de la graisse, des tendons, on peut greffer des cheveux, on peut greffer presque tout. Le problème de la greffe, c'est qu'elle va devoir puiser sa propre vascularisation à l'endroit où on la met, au site receveur. Il faut rester par là, pardon. Il n'est donc pas possible de transférer, sauf exception, des greffes qui soient très volumineuses, parce qu'elles n'auraient pas le temps de récupérer une vascularisation propre à l'endroit où on les couche. Et on est donc limité à des fragments de petite taille, sauf éventuellement de grande surface quand il s'agit de la peau, mais de petite épaisseur. Et c'est ainsi que parmi les transferts nécessaires, on a parfois affaire avec des trous de grosse taille. Alors, voici des exemples de tumeurs. Vous allez voir des choses presque horribles pendant les 10 prochaines minutes. Voici une tumeur qui a l'air de pas grand-chose. Elle est extrêmement rare, rassurez-vous, hein, c'est rarissime même. Il faut néanmoins, pour soigner, enlever un gros bout autour. Alors, on s'apprête à enlever ce morceau, mais la façon, ce qu'on va enlever, non seulement en périphérie, mais en profondeur, va être important. Et pour réparer, il faut un fragment plus gros qu'une greffe. C'est ainsi qu'on définit la notion de lambeau. Et alors, le lambeau n'est pas à entendre sous un nom, enfin sous une compréhension commune qui est de morceaux déchiquetés, vous savez, un drapeau en lambeau, un vêtement en lambeau. Non, non. Le lambeau, c'est un morceau de tissu prélevé avec une grande méticulosité et dont la particularité est de garder une attache avec l'endroit du corps où on l'a pris, par lequel passe la vascularisation. Et l'on transfère ainsi un morceau, vous voyez, je l'ai mis en petit en haut, mais on a quand même un gros manque de peau et de muscles au niveau de l'abdomen, et on va chercher au niveau de la hanche, un endroit où il y a plus de laxité cutanée, un fragment qui reste attaché par son pied et qui va être transféré devant. Et sur le jeu des laxités, on arrive ainsi à réparer une perte de substance qui était de l'ordre de 15 cm. Et vous voyez qu'à l'endroit où on a prélevé, on a pu fermer, c'est un site donneur dit auto-fermant, c'est-à-dire qu'on a déshabillé Pierre à un endroit où il y avait un excès, ce qui a permis de rhabiller Paul. Cette notion de lambeau est fondamentale et peut être déclinée sous des modes extrêmement complexes, parce que ça va depuis le seul morceau de peau qui est transféré, mais on peut faire des lambeaux composites avec de la peau et du muscle, de la peau, du muscle et de l'os et du tendon. On peut transférer des fragments de tissu de plus en plus complexes qui vont être de plus en plus adaptés à la perte de substance qu'on aura à réparer. Et quand, par exemple, on enlève, pour une raison tumorale, la moitié d'une mâchoire, en comprenant la peau, l'os, la gencive, on peut aller chercher dans des endroits du corps un endroit où il y aura de la peau, du muscle et de l'os, afin d'être le plus anatomique possible. Alors ici, c'est un cas fort rare que j'ai montré un peu anecdotique, parce qu'on ne réalise pratiquement plus ceci. C'est un cas où on est obligé de prélever un lambeau sur l'avant-bras pour reconstruire une perte de substance de l'abdomen, et on est obligé d'attendre un certain temps que le lambeau prenne d'ailleurs comme une greffe. C'est un cas un peu petit peu mixte, et au bout d'un temps qui peut varier jusqu'à 8 semaines, on sectionne ce pont. La complexité, vous voyez déjà, on est resté dans des choses très simples, on a parlé de la cicatrisation, des greffes qui sont variées, des lambeaux qui sont extrêmement variés, qui peuvent être déclinés sous des modes complexes. On peut réparer avec l'association de plusieurs de ces techniques. Et plus que pour le chirurgien connaître la technique, il est important de connaître la stratégie d'utilisation de ces transferts. Faut-il les faire en une fois ou en deux fois? Va-t-on couper au moment où on libère la tâche, seulement l'artère ou la veine? Tous ces problèmes-là ont été très modélisés par le professeur Jean-Marie Servant, qui est actuellement le chef de service de l'hôpital Saint-Louis, qui a été mon patron et qui nous a tous inculqué le plus précisément possible des connaissances et qui est tout à fait, qui a une notoriété nationale tout à fait importante concernant cette stratégie d'utiliser telle ou telle partie du corps. Alors je vais vous donner un exemple qui est un petit peu plus complexe. Je reviens en arrière une seconde pour vous montrer l'exemple en question. C'est un patient qui n'a pas trois seins ou deux nombrils. Il a également une petite tumeur fort rare à ce niveau-là. À la différence de la patiente précédente, quand on va l'enlever, il va falloir non seulement enlever la peau, mais il va falloir enlever toute la paroi, c'est-à-dire faire un réel trou qui exposerait les viscères de la cavité abdominale. C'est dire qu'on ne peut pas prendre le moindre risque sur l'échec du procédé de la reconstruction. Si jamais il y a un échec de cette reconstruction, le pronostic fonctionnel, la vie des gens est engagée, ils peuvent avoir les organes qui sortent du ventre. Il faut donc choisir une stratégie la plus fiable possible. Alors voici un lambeau qui va être prélevé dans ce cas présent sur le flanc, sur le côté. Le patient est sur le dos, voilà son épaule avec son bras. On prélève un endroit où il y a un excès de peau et de muscles. Et ce morceau, qui doit aller très loin de l'endroit d'où il vient, va avoir ses vaisseaux sectionnés. C'est-à-dire qu'on isole les vaisseaux nourriciers, l'artère et la veine principale de ce fragment, mais étant donné que l'arc de rotation serait au court, on décide délibérément de sectionner. Alors quand on sectionne, ce morceau est en état de vitalité précaire. On a 6 heures pour le rebrancher. C'est comme d'être en vol avec un avion avec une quantité d'essence minimale pour aller se poser sur un aéroport. Il ne faut pas se planter. Il y a quand même des moyens pour rendre les choses moins graves et moins dangereuses. Eh bien, c'est qu'on va décomposer l'intervention en deux temps, et dans un premier temps, aller brancher le lambeau là où on en aura besoin. Alors vous voyez que cette cicatrice est très impressionnante parce qu'on se sert des artères et des veines de la jambe pour venir le connecter. Il est replié sur lui-même. Jean-Marie Servan appelait cette technique le chausson aux pommes. Et on le laisse en attente pendant le temps nécessaire où on sera certain que le rebranchement des vaisseaux sera viable. Parce que quand il s'agit de faire de la microchirurgie et de reconnecter des tout petits vaisseaux, on a même dans les mains les plus expertes un risque qui est évalué à 2 ou 3% d'échec. Et même si ce pourcentage de 2 ou 3% ne vous paraît pas important, pour nous, il est inacceptable. On considère en médecine qu'une technique est fiable quand son taux d'échec est vraiment moindre d'1% ou d'1,5%. Au-delà, ça nous semble être prendre des risques trop importants. Alors là, on sépare les risques en deux, on fait le branchement, mais on n'a pas encore enlevé la tumeur, on attend, et quand on est sûr que le branchement est viable, on s'apprête à l'enlever, et le jour où on l'enlève, c'est le deuxième temps, on enlève tout. Vous voyez ici, vous n'avez pas l'habitude de voir ça, mais un bout de foie et un bout d'épiplon. Le trou est là. On utilise immédiatement une plaque de Gore-Tex qui va représenter la reconstruction du plan profond sur lequel les organes digestifs vont pouvoir coulisser par la profondeur. Et le lambeau de reconstruction est prêt à être déplié. Donc on a transformé une intervention longue d'environ 8-10 heures et dangereuse, avec un risque pour le patient de 3 à 4% d'échec, en deux temps opératoires de 3 heures, avec un risque qui est presque nul. C'est une illustration d'une stratégie, si vous voulez, de reconstruction qui est normalement celle qui doit minimiser les risques. Et voici le résultat. Alors, vous allez me dire, c'est bien joli. Non, c'est pas joli. La fonction est rétablie, la cavité abdominale est fermée, mais le résultat esthétique, discutable. Oui, dans ce cas présent, la fonction prédominait sur la forme, mais la reconstitution de la forme est effective, puisqu'on a reconstitué un thorax, enfin, en l'occurrence, c'est la jonction entre le thorax et la cavité abdominale, dans des conditions satisfaisantes. Quand on attaque la face, l'impératif esthétique est fondamental, car à la face, l'esthétique est une fonction. Les visages défigurés sont un réel handicap. Ce qui veut dire que quand on procède à une chirurgie des tumeurs de la face, il faut avoir en arrière-pensée des stratégies parfois longues et compliquées. Au moins, il y a une chose, c'est que la chirurgie de la face, j'espère que d'entre vous qui éventuellement en auraient une ne me contrediraient pas, mais est moins douloureuse que la chirurgie de l'abdomen. Ce sont des chirurgies où on gonfle énormément, parce que les tissus sont très vascularisés, mais au moins, c'est moins douloureux. En revanche, l'impératif esthétique est primordial. Oui, il n'y a pas de défaillance pour l'instant. Alors, le triangle représenté par les deux yeux et le nez est un triangle qui va concentrer, quand vous examinez le visage d'autrui pour la première fois, 90% de votre attention, au premier coup d'œil, va se porter sur le triangle représenté par ses deux yeux et son nez. C'est-à-dire que c'est dans ce triangle-là que la moindre imperfection sera le plus visible. Mais évidemment, on regarde le reste après. Et c'est particulièrement pour le visage que la notion d'unité dite esthétique et fonctionnelle, vous voyez que là on met esthétique en premier parce que le critère esthétique est fondamental, que l'on a fait empiriquement, je pense initialement, une cartographie. Alors par exemple, ça c'est la cartographie du nez. Vous voyez, donc là il y a le dos du nez, le bout du nez, les narines. Cette cartographie est importante parce qu'au moment, et c'est là où il est important que le chirurgien cancérologue soit aussi le chirurgien plasticien ou travaille en étroite collaboration avec lui, c'est qu'au moment où on va enlever une tumeur située, par exemple, autour de 4, il est très astucieux d'agrandir, si c'est possible, la perte de substance à cette forme géométrique. Parce que nous savons qu'en fonction de cette forme-là, les reconstructions seront dans des plis naturels de la peau et les cicatrices, même présentes, seront beaucoup moins perceptibles. Alors, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui vont d'ailleurs reprendre, à titre d'illustration, les techniques dont je viens de parler. On avait vu l'exemple de la cicatrisation du bout du nez. Il est certain cas, voici une petite tumeur qui est à peine perceptible sur cette photographie, on est obligé d'enlever cette surface. Voici les cartilages du nez qui sont à l'air, et voici, après un certain temps, avec une greffe de peau prise derrière l'oreille. Et c'est l'exemple d'une greffe de peau qui, dans le cas présent, a été choisie à un endroit où les qualités de pigmentation sont à peu près identiques au bout du nez. Ça, c'est un exemple simple. Mais il est certains cas où le sous-sol, à l'endroit où on aimerait poser une greffe, on a fait un trou suffisamment important pour que la greffe ne puisse pas venir y prendre. On est obligé d'utiliser alors un lambeau. Et le lambeau, comme vous le savez, a une attache. Alors, c'est connu d'ailleurs depuis bien avant Ambroise Paré et depuis la technique indienne, dite indienne, qui a probablement plus d'un millénaire, la peau du front, on dirait, a été faite pour reconstruire le nez. Elle a presque la même texture et la même couleur. Et en plus de ça, même quand on en prend un morceau, vous voyez qui est quand même non négligeable, on arrive à fermer le front sans laisser de dysmorphose, et les cicatrices du front sont, dans l'immense majorité des cas, extrêmement discrètes. Il serait donc dommage de ne pas aller se servir à l'endroit où on a besoin du tissu et de transférer ce tissu. Alors, vous voyez le profil, où pendant un certain temps intermédiaire d'environ 3 semaines, il y a une espèce de petite trompe posée sur le nez, indolore, qui permet d'apporter au bout du nez le morceau qui va prendre, et au bout d'un certain temps, on sectionnera ce pied et vous avez des résultats qui sont d'une qualité esthétique tout à fait remarquable, sans délabrement particulier au niveau du front. Alors, il y a des cas un petit peu plus extrêmes. Certains cas, on enlève des morceaux de nez beaucoup plus importants. Et là, la partie centrale du front ne suffirait pas. Alors, ce lambeau qui a été décrit par le professeur Converse, qui était chef de service à New York, remis à l'honneur en 1946, revient à prendre sur le scalp, se servir du scalp comme un porte-vaisseau pour y apporter la moitié du front dont on va avoir besoin pour reconstruire le nez. Alors évidemment, l'information, et nous reviendrons sur les nécessités d'information des patients, est importante. Il faut prévenir les gens avant qui vont avoir l'air très étrange. Hein, vous en conviendrez avec moi. Extrêmement étrange. Curieusement, ils acceptent leur sort, il suffit de bien leur expliquer, d'ailleurs ils n'ont pas le choix. Et ils ont donc l'œil occlu pendant 4 semaines. 4 semaines où d'ailleurs on ne reste pas forcément à l'hôpital, car c'est évidemment un autre débat, mais au bout de 5-6 jours, on peut très bien rentrer chez soi, avoir une infirmière à domicile qui fait des pansements. Et voici le résultat, après le sevrage du lambeau, où vous avez des qualités tant au niveau de la couleur que de l'harmonie qui sont tout à fait satisfaisant. Donc la fin justifie les moyens dans ce genre de cas et on arrive à obtenir des reconstructions. Il suffit de connaître le procédé et de prévenir les patients. Alors, j'avais parlé des yeux, mais les paupières, je vous rassure, ça ne va pas aller beaucoup plus au-delà de tout cela. La paupière, c'est très important, comme tout le monde sait, puisqu'elle sert à protéger l'œil. Et dans les cas, par exemple, où on n'en enlèverait qu'une moitié, là c'est une paupière inférieure, il faut la reconstruire plan par plan. Je vois M. Michaud très inquiet qu'il n'y ait pas quelqu'un qui défaille dans la salle. Sa responsabilité, peut-être la mienne, serait engagée, de fait, mais bon. Bon, il faut donc reconstruire. On va prélever au niveau du nez un petit morceau de cartilage avec sa muqueuse, parce qu'il faut qu'au contact de l'œil, il y ait une muqueuse un petit peu humide, ce qui va représenter la face profonde de la reconstruction. Vous voyez que la greffe de cartilage, qui est en fait une greffe cartilage et muqueuse, et on se sert de l'excès de paupière qu'il y a au niveau de la paupière du dessus pour transférer un lambeau qui va venir recouvrir le tout. Voici une intervention qui est courte, environ 2 heures, et qui donne, et je pense que cette photo vous permet d'apprécier par rapport à l'état préopératoire, un résultat qui est non seulement sur le plan esthétique, mais fonctionnel, car la fonction au niveau de l'œil est absolument primordiale, un résultat tout à fait satisfaisant. Alors, varions les plaisirs, les oreilles. Ce n'est pas le pire de tout ça. Le pire est à venir. La reconstruction d'oreilles est extrêmement délicate. C'est heureusement fort rare, puisqu'en fait, ce sont soit des malformations, qui sont assez rares, soit des tumeurs, qui sont malheureusement un peu moins rares. Il y a une façon actuellement, et je voudrais citer Dr Françoise Firmin, qui est une des expertes mondiales dans ce domaine, avec un des Japonais qui s'appelle Nagata, qui ont réduit des protocoles de reconstruction où il fallait 4 ou 5 interventions à des interventions en deux temps, où sur le plan simplement, je vous donne le principe, il faut prélever des morceaux de ce qu'on appelle le cartilage costal, c'est à la partie basse du thorax. On a des côtes cartilagineuses faites exprès pour reconstruire les oreilles. On va les associer, on va les sculpter, c'est un travail très minutieux, et on le fait donc en temps réel, et le réimplanter sous une préparation de lambeau qui a été éventuellement expansé ou greffé, afin de donner une reconstruction tout à fait proche de la normale, en sachant que l'oreille est un des rares parties du corps. On ne voit les deux oreilles de quelqu'un que quand on est dans 5 degrés de face. Dès qu'on est à plus de 5 degrés, on n'en voit plus qu'une seule. Donc le fait d'avoir deux oreilles discrètement différentes n'a pas grande influence sur le confort des gens. Mon collègue Stéphane Guichard travaille d'ailleurs avec Madame Firmin. Ce sont tous les deux des élèves de Saint-Louis. Et ils ont dans le domaine une grande expérience. Et alors je vais vous montrer un cas un petit peu plus spectaculaire encore, parce que là, on associe à la cicatrisation, au greffe et au lambeau, ce dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est une technique classique, qui est celle de l'expansion. L'expansion, qu'est-ce que c'est? C'est glisser un ballon sous la peau ou sous un muscle, le gonfler, et quand c'est atteint une taille suffisante, récupérer l'excès de peau ou de tissu qu'on a obtenu à la fois par élongation et par création, et le transférer. C'est la même chose que la grossesse, hein. C'est-à-dire qu'après une grossesse qui a dilaté l'abdomen, les femmes qui ont eu des enfants savent que pendant un certain temps, elles ont la peau de l'abdomen un petit peu détendue. C'est exactement le principe de l'expansion. Alors voici une femme qui présente une tumeur du scalp, là encore rarissime, qu'on a enlevée. Alors vous voyez là, en fait, je vous avais montré ses yeux que j'ai cachés par confidentialité, vous verrez qu'elle sourit, parce que le fait d'avoir le crâne à l'air, évidemment de façon très courte, juste pour la photo, parce qu'il faut qu'il soit protégé par des pansements, le temps qu'on ait une analyse qui montre que la tumeur ait été enlevée en totalité, elle ne souffre absolument pas. Et pendant cette première intervention, on lui a mis dans le dos un petit ballon que l'on gonfle régulièrement, raison de 2 injections par semaine. Il y a un petit réservoir qu'on peut piquer et par lequel on injecte des quantités de liquide. Et généralement, au bout de 2-3 mois, on a un volume suffisant. Et ce volume permet de récupérer un lambeau qui a été implanté ici par microchirurgie, selon le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est un grand lambeau parce que la perte de substance était grande. Et on ne peut pas laisser cette dame avec les cheveux complètement en arrière. Il faut donc refaire venir sa ligne chevelue. On utilise donc dans un deuxième temps une deuxième prothèse d'expansion que l'on gonfle pendant 3 mois supplémentaires jusqu'à lui obtenir une double tête. Et au bout de 3 mois supplémentaires, on va enlever cette prothèse et récupérer le gain de tissu pour faire revenir sa ligne capillaire à une implantation normale. Vous avez ici un ensemble de techniques, de lambeaux microchirurgicaux avec des expansions et en plusieurs temps, qui représentent des stratégies de reconstruction qui sont relativement complexes, tout à fait connues et maîtrisées. Le premier recours à la chirurgie plastique reconstructrice, c'est la chirurgie des tumeurs de la peau. Il y a également, au moins à un titre égal, les reconstructions des tumeurs du sein, car l'épidémiologie montre que c'est le cancer le plus fréquent de la femme et qu'il touche ou touchera 1 femme sur 10. Heureusement, les campagnes de dépistage font que les cancers sont découverts de plus en plus tôt, et qu'à ce titre-là, ils sont normalement dépistés à des stades où ils sont le plus guérissables d'emblée. Néanmoins, on enlève encore beaucoup de seins. C'est un traumatisme majeur pour les femmes qui en sont atteintes, mais il faut savoir que la reconstruction est possible derrière. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas si l'image est suffisamment bonne qualité. Où c'est l'utilisation d'une prothèse, dont je n'ai pas encore parlé. C'est encore un des types de reconstruction différents. Prothèse, on reprend l'incision de la mastectomie, on glisse une prothèse, on peut en mettre en un temps ou en deux temps, et on reconstruit ensuite généralement l'aréole qui a été nécessairement sacrifiée lors du temps de la chirurgie cancérologique. Et cette aréole est reconstruite par un procédé de greffe de peau que l'on prélève à un autre endroit du corps. On arrive donc, il y a de nombreuses techniques pour la reconstruction du sein qui dépendent de la taille de la femme, de la taille de ses seins, de la façade du teint du sein restant en l'occurrence, des lambeaux plus ou moins complexes sur le ventre, sur le dos. On arrive, et je voulais en tout cas ne pas faire cet exposé sans vous mentionner ce procédé de reconstruction. Il y a à Saint-Louis toute une équipe de collègues qui s'en occupent, plus particulièrement spécialisés. Je pense à Jean Masson, Benoît Coutureau, Catherine Martineau, toute l'équipe de Saint-Louis est un centre tout à fait habilité, comme d'ailleurs d'autres services, d'autres hôpitaux et des centres anticancéreux, à réaliser ce genre d'intervention. Nous allons passer à la deuxième cause de chirurgie réparatrice, qui sont les traumatismes. Après les tumeurs, les traumatismes, et je ne vous en mentionnerai que deux, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les moins graves, que sont les brûlures et les paralysies. Alors, très rapidement, les brûlures. Comme vous le savez, on s'est tous déjà brûlés, et dans l'immense majorité des cas, les brûlures sont bénignes. Néanmoins, certains accidents sont beaucoup plus graves que d'autres, et on peut avoir des brûlures du troisième degré, c'est-à-dire que l'intégralité de la peau est détruite, et donc ne pourra même plus cicatriser par elle-même. On est donc amené à gérer ces brûlés, à la fois avec des réanimateurs, car dans les brûlures qui sont profondes et étendues, il y a un problème de réanimation et de survie immédiate qui est fondamental, mais la réanimation fait des progrès considérables et a d'ailleurs aidé la chirurgie beaucoup. Nous devons beaucoup à nos anesthésistes réanimateurs. Et donc, pour ces brûlures, si on ne les traitait pas, voici un exemple pour une main qui a été brûlée et qui a été mal réparée, des déformations avec des rétractions importantes. Alors là, il est bien évident que le problème se pose certainement plus en termes de fonction qu'en termes de forme. Mais la main est un élément fondamental, comme vous le savez. Pour le visage, on est amené à procéder à toutes sortes de techniques, à la fois des greffes, des expansions. Mais s'il y a une chose dont j'ai peur, moi, aujourd'hui, c'est les brûlures. Parce que je sais que c'est, malgré, vous voyez, un patient qui a été brûlé de façon extrêmement grave, il a été greffé sur l'ensemble de tout son visage. Le but des chirurgiens et les gens, par exemple, de Percy, avec qui j'ai un petit peu travaillé, Dr Frédéric Lambert, qui était un collègue. Le but, c'est que de restaurer l'ouverture des yeux, la respiration et l'ouverture de la bouche. On n'en est plus. Évidemment, on voudrait que les brûlés soient les moins défigurés possibles. Mais il faut bien avoir conscience que dans ce domaine-là, la chirurgie a des limites. Il y a pourtant des avancées spectaculaires qui sont faites. Je reviendrai à la fin de cet exposé sur les nouvelles techniques. Mais les cultures d'épiderme représentent des avancées fondamentale dans la chirurgie réparatrice. Qu'est-ce que c'est ? La culture de tissu, c'est prélever un petit fragment de tissu chez un individu, l'envoyer au laboratoire, et par des techniques biologiques, c'est là où la biologie vient au secours de la chirurgie, amplifier le tissu, en avoir des grandes quantités, il se dispose à ce moment-là sous forme de petites plaques, et secondairement, après un délai qui dépend des tissus en question, enfin pour la peau, ça se cultive très très bien, réimplanter sur les brûlés avec des très grandes surfaces. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un problème de coût majeur. Alors, on a la chance d'être encore dans un pays où la sécurité sociale couvre ce genre de dépenses. Mais il faut savoir que la préparation d'une petite plaque de greffe de peau de 3 sur 5 cm va coûter de l'ordre de 5 000 francs, que la préparation de l'endroit où on va la déposer avec des substituts va coûter de l'ordre du même prix, et que quand on est, et c'est le cas pour des indications, quand on a des brûlures à 70% de la surface corporelle, on parle de budget où rien que pour la greffe, on est de l'ordre du million de francs nouveaux, plus des séjours en réanimation de 6 mois avec des coûts qui sont exorbitants, mais ça fait partie, évidemment, des grandes avancées de la chirurgie réparatrice. Un mot sur les paralysies après les brûlures. Là, c'est vraiment un problème de fonction, et dans ce cadre-là, cela revient à parler des membres qui ont été privés de leur fonction neurologique. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des problèmes de nerfs. Il y a beaucoup de recherches sur la repousse nerveuse. Néanmoins, il faut savoir que les nerfs, même sectionnés, peuvent se réparer et généralement redonner une certaine fonction. Néanmoins, quand l'atteinte nerveuse se situe près de la moelle épinière, notamment les atteintes qu'on appelle plexiques, on a des arrachements nerveux qui font qu'ils ne sont pas réparables. Donc la seule chirurgie possible va être une chirurgie qu'on appelle palliative, parce qu'on ne traite en aucun cas la cause, c'est-à-dire la déficience d'une fonction nerveuse. On va traiter ce qu'on peut, c'est-à-dire sauvegarder un petit peu ce qui reste de fonction. Et alors là, le principe est simple. il faut, par exemple, pour réanimer une main ou un membre supérieur, aller prélever sur une fonction, sur un doigt, une flexion d'un doigt, une extension de doigt ou de poignet qui est moins utile, et transférer ce muscle encore innervé vers un effecteur où ça sera plus important. Monsieur Marc Revol est un expert national dans le domaine. Et voyez, alors c'est une chirurgie qui n'est pas du tout sanglante, parce que la chirurgie des membres se fait sous garrot. Mais c'est une chirurgie où il faut aller vite, parce qu'on n'a pas le droit à plus d'une heure 45 de garrot. Donc on dissèque tous les éléments, on connaît ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas, et on prélève un muscle avec son tendon, qui est encore un muscle doué d'activité, et on va transférer le tendon sur une fonction qui semble plus importante. C'est donc une chirurgie palliative des transferts tendineux. Après les traumatismes, nous allons passer aux malformations. Et je vous ai mentionné les malformations physiques, qui sont de loin les plus nombreuses, mais également les malformations psychiques. Alors je vais commencer par les malformations psychiques, bien qu'elles soient bien évidemment les plus rares. Et d'ailleurs, le mot malformation psychique est un mauvais terme. Il s'agit essentiellement, quand on parle d'anomalie psychique, de ce qu'on appelle les inversions de genre, et en l'occurrence du transsexualisme. Alors le transsexualisme, ce sont schématiquement des individus avec un sexe apparent, ils ont un morphotype d'homme, et qui ont un cerveau qui rêve d'être une femme. Il n'y a pas de connotation sexuelle dans la demande du vrai transsexuel, ce sont d'ailleurs des pathologies extrêmement rares, hein. On parle de 1 sur plusieurs centaines de milliers d'individus. Mais en l'occurrence, c'est un cerveau qui n'est pas dans le bon corps. Alors, si on voulait vraiment être curatif, on traiterait l'anomalie psychique. On ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est palliativement changer le sexe apparent du corps. Et ce sont donc des chirurgies de transfert de sexe, où on enlève un pénis à un homme en lui créant un vagin, ou vice-versa. Et cette chirurgie-là, qui peut avoir une connotation tout à fait perverse, dans le transsexualisme vrai, il n'en est rien, parce qu'on ne change pas de sexe par hasard. C'est 2 à 3 ans d'évaluation psychiatrique par des psychiatres spécialisés, une évaluation endocrinologique extrêmement poussée, et quand on a la 3e signature du chirurgien plasticien qui est spécialisé, par exemple, je ne peux pas faire ce genre de chirurgie, mais ceux qui sont habilités à le faire, à ce moment-là, quand ces 3 autorisations sont données, après des procédures extrêmement longues, on procède à une chirurgie de changement du sexe apparent, et en l'occurrence, la Sécurité sociale reconnaît même cette pathologie comme pathologie réelle, elle le prend en charge. Mais ça n'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le registre de la perversion, où de façon plus ou moins clandestine, comme vous le savez, des pervers peuvent éventuellement changer de sexe. Nous allons revenir sur les malformations physiques, car elles représentent, et au niveau français, une des avancées les plus spectaculaires qui s'est produite dans la chirurgie dans les 30 dernières années. Le docteur Paul Tessier, qui est ici en dessous, chirurgien plasticien, en association avec le docteur Gérard Guyot, qui était neurochirurgien, ont réellement réalisé une révolution chirurgicale dans la fin des années 60. Ça a marqué le monde entier. C'est passé initialement à l'hôpital Foch. Le service de l'hôpital Foch n'existe plus. M. Tessier est à la retraite. C'est un homme qui a aujourd'hui 80 années. Ils ont eu l'idée, si vous voulez, de décloisonner ce qui était la chirurgie du crâne, domaine réservé des neurochirurgiens, avec la chirurgie de la face, domaine des chirurgiens plasticiens. Et ils ont créé, par une audace qui leur a valu d'ailleurs des critiques à l'époque, le domaine de la chirurgie crânio-faciale, c'est-à-dire l'abord de l'ensemble du squelette de la tête, à la fois par le crâne et par la face, avec des chirurgies qui traversent l'orbite. Sur le moment, ça a été extrêmement critiqué. En fait, il s'agit d'une chirurgie plastique des plus spectaculaires, je vais vous en montrer 1 ou 2 exemples, où en remodelant le squelette qui est déformé, tout suit, c'est-à-dire que l'ensemble des muscles de la peau va être modifié, et c'est une chirurgie plastique exceptionnelle. Par exemple, le rapprochement des orbites. Jusqu'à il y a une 30aine d'années, ça ne paraissait pas concevable. Il est en fait possible, par un double abord à l'intérieur du crâne, et en découpant les orbites et en faisant donc suivre les globes oculaires, de modifier à volonté la forme d'un visage. Alors on ne le fait pas chez n'importe qui, bien évidemment. On le fait, en l'occurrence, quand certains enfants, et c'est une chirurgie qui est passée, et ça c'est une évolution réelle depuis 30 ans, on est passé d'une chirurgie de l'adulte, qui est assez dangereuse, à une chirurgie de l'enfant qui l'est beaucoup moins. On diminue l'écart entre les orbites, et par des cicatrices qui sont dans les cheveux et sous les paupières. Il est ainsi possible, comme le fait le docteur Daniel Marchak, et c'est un des domaines, puisque je travaille avec lui, où je me passionne particulièrement, de mobiliser complètement les orbites. Cela peut aller beaucoup plus loin, parce que quand vous avez une malformation, heureusement fort rare, où vous avez en fait une absence de fusion des bourgeons de la face, la face et le crâne sont formés par divers bourgeons qui doivent fusionner pendant la vie embryonnaire et fœtale, et il se peut que ce processus de fusion s'interrompe. On obtient des enfants qui ont une intelligence strictement normale, qui ont des écarts colossaux, avec évidemment une fente au milieu de la face. Et vous voyez au niveau du squelette, l'absence d'os au milieu. Il est possible, en découpant l'ensemble de la face et en la mobilisant, de restituer un squelette normal et une apparence beaucoup plus normalisée. Cette chirurgie crânio-faciale est une avancée phénoménale. Elle a valu au docteur Tessier une notoriété internationale, au docteur Marchak également. Ce sont des grands experts internationaux dans le sujet et la France continue à avoir vraiment une position dominante. Je n'ai pas encore parlé de la distraction. Alors la distraction, ça n'est pas pour s'amuser, c'est le contraire de la contraction. Et quand on parlait d'expansion de la peau, c'est-à-dire mettre un ballon, on expand des tissus mous. Il est possible, et depuis environ une dizaine d'années, c'est appliqué au niveau de la face, le mérite revient aux Américains, au professeur McCarthy de l'Université de New York, d'avoir l'idée que sur des os déformés, d'appliquer une petite section, d'installer un petit appareil métallique et de l'écarter tout doucement, 1 mm par jour, afin de lui redonner une forme beaucoup plus proche de la normale. Et ceci est particulièrement utile dans les asymétries du squelette, où on peut, à l'occasion de la mise en place de cet appareil, non seulement redonner forme normale à l'os, mais également aux muscles et à la peau. Dérivée de cette chirurgie, la chirurgie du crâne de l'enfant est également, et alors là, l'hôpital Necker a la plus grande série mondiale, en l'occurrence avec Dominique Renier, où dans un certain nombre de cas, c'est une malformation qui est beaucoup plus rare que les fentes labiopalatines. Les craniosténoses représentent 1 pour 2200 naissances environ. Et ce sont des anomalies de fusion des sutures du crâne. Vous savez que le crâne des bébés est très mou, il peut se déformer à volonté. C'est fait exprès d'ailleurs pour qu'il puisse naître sans trop de difficultés. Mais malheureusement, de temps en temps, la fusion entraîne des troubles de la croissance. Alors vous voyez ici une anomalie qui s'appelle une scaphocéphalie, qui a un excès d'allongement antéro-postérieur, et par un procédé, donc on incise au milieu des cheveux, on opère entre 3 et 6 mois, c'est-à-dire très jeune, et il faut opérer tôt, car les enfants le supportent très bien, on peut remodeler les fragments du crâne et redonner à cet enfant une tête normale. De nombreuses anomalies sont possibles, mais éventuellement des asymétries, vous voyez, où là le front et un côté de l'orbite ne se sont pas développés normalement. Alors on procède à un certain nombre de découpages sur les os. Vous avez ici la partie, le bandeau supraorbitaire, la partie qui est au-dessus du front, qui est déformée, que l'on va sur la table travailler afin de lui donner une forme normale. Et grâce à ce travail, on arrive à redonner une symétrie normale. C'est une chirurgie qui a évolué énormément depuis 20 ans et c'est grâce en partie au progrès de l'anesthésie pédiatrique. Voici un exemple de chirurgie morphologique quasiment pure où si on n'intervient pas, il y a des risques éventuellement de détérioration du développement cérébral. Donc vous retrouvez ici, caractéristique fondamentale de la chirurgie plastique, l'association entre une nécessité de forme et de fonction. Et certaines anomalies de suture sont suffisamment importantes, si plusieurs sutures sont atteintes, pour que si on n'opérait pas, des détériorations mentales puissent survenir. Quand j'entends détérioration mentale, c'est des baisses plus tard du quotient intellectuel. Alors, relaté à cela, je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner ce qui est en train de devenir un réel problème de santé publique et qui n'en a d'ailleurs aucune gravité, mais il faut le mentionner. Depuis 1994, ou même un petit peu avant, les pédiatres recommandent pour éviter la mort subite de nourrissons, de mettre les enfants sur le dos pendant les 6 premiers mois. Et chez un grand nombre d'entre eux, s'il y a une petite anomalie du tonus ou simplement des habitudes, le crâne se développe de façon asymétrique derrière. Alors peut-être que parmi vous, dans des familles adjacentes, vous en avez entendu parler. Depuis, la croissance de ce genre de problème est en train de devenir exponentielle depuis la mesure qui vise à mettre les enfants sur le dos. Alors, ça n'a en soi aucune conséquence cérébrale, parce que située à cet endroit-là, l'anomalie n'a pas de conséquence. En revanche, sur le plan morphologique, quand elle devient importante, elle va nécessiter une correction. Et alors que la chirurgie du pôle antérieur du crâne et des orbites n'est pas trop dangereuse, la chirurgie de l'arrière-crâne est beaucoup plus dangereuse à réaliser. Donc nous craignons que dans les années qui viennent, face à ce nombre qui peut augmenter, nous ayons à procéder de plus en plus à des chirurgies beaucoup plus dangereuses. Alors vous me direz, ils ont évité la mort subite. Certes. Ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est que dès que l'anomalie apparaît, il faut empêcher les enfants d'être sur le dos et éventuellement les mettre systématiquement sur le côté. Si on ne procède pas à cette espèce de nursing de l'enfant, l'anomalie ne disparaîtra pas. Si elle est fixée à un an, elle est fixée de façon définitive. Il faut, dès qu'elle apparaît, les pédiatres sont d'ailleurs tout à fait au courant, mais je voulais le mentionner parce que c'est un exemple de chirurgie morphologique qui peut apparaître, et Dominique Renier, en ironisant, disait que, éventuellement, dans quelques années, la forme normale serait une forme un petit peu oblique. Alors, évidemment, c'est caricatural. Vous voyez qu'on est passé par différentes phases de la nécessité de restauration de la fonction et de la forme, du développement cérébral ou de son absence, de la restauration de la capacité d'une main à récupérer sa mobilité. Quand on attaque une chirurgie plastique dite plus esthétique, il est clair que la restauration de la forme est, disons, la demande principale par rapport à la fonction. Mais ce n'est pas si simple. Très souvent, les demandes concernent la silhouette. Et la silhouette, comme vous le savez, est réglée par la quantité de graisse. Alors, il y a deux sortes de graisse. Il y a une graisse un peu diffuse qui varie selon le poids. Quand on maigrit, c'est celle-là qu'on perd, quand on prend du poids. C'est celle-là qu'on gagne. Et puis, à d'autres endroits, il y a des graisses qui sont dites stéatomériques, qui sont beaucoup plus, moins sensibles aux variations pondérales. Et c'est celle-là, éventuellement, qu'on peut aspirer. Alors, ce n'est pas le but de cet exposé de vous donner tous les résultats soi-disant spectaculaires de la chirurgie esthétique. Donc, je ne vous montrerai pas de résultats de l'hypoaspiration. Mais s'il y a un message à connaître sur cette intervention qui est une des plus pratiquées en chirurgie esthétique, c'est que ce n'est pas une technique d'amaigrissement. L'hypoaspiration est contre-indiquée chez les gens qui sont très gros, parce qu'elle peut être dangereuse, vraiment dangereuse, voire même mortelle. Il faut donc faire maigrir le patient qui souhaiterait avoir une hypoaspiration, et quand il est parvenu proche de son poids idéal, à ce moment-là, on peut aspirer ce qui reste par endroit. Alors, ce qui est plus intéressant depuis quelques années, c'est que cette graisse qu'on a aspirée, on peut éventuellement la réinjecter. Vous me direz, pourquoi l'inspirer pour la réinjecter? Mais c'est qu'il y a des endroits où le vieillissement s'accompagne d'une perte de la quantité de graisse, et notamment au niveau du visage, où il est possible de la réinjecter. Alors, en fait, la greffe de graisse est connue depuis très longtemps, mais on avait négligé une chose, c'est la fragilité des adipocytes. Alors, la graisse qu'on avait aspirée un petit peu brutalement, on a essayé de la réinjecter tout autant brutalement, et cette greffe avait très mauvaise réputation, parce qu'on disait que ça ne marchait jamais. En fait, il faut l'aspirer d'une façon extrêmement douce et la réinjecter de façon millimètre cube par millimètre cube quasiment, ce qui veut dire des interventions qui ne sont pas si simples car elles sont longues et un traumatisme des tissus important. Alors, c'est en grande vogue depuis 2 ans. Ça sera vraisemblablement une technique d'avenir, la réinjection de graisse. Pour être tout à fait précis, ça semble tout à fait anodin, mais on ne peut pas notamment exclure que la réinjection de graisse au sein du muscle en grande quantité puisse perturber le muscle. Donc je ne me prononcerai pas quant à ce qui semble être néanmoins une technique prometteuse. Alors, passé la silhouette, le sein est un élément important. Et je vous ai sélectionné 4 exemples de chirurgie du sein, car c'est là où on voit que la différence entre la chirurgie esthétique, qui peut apparaître très futile à beaucoup d'entre vous, voire même contre nature, peut dans un certain nombre de cas être prise en charge par la sécurité sociale, et dans d'autres cas ne pas l'être. Car en fait, la vraie définition qui scindrait la différence entre chirurgie reconstructrice et esthétique, c'est que dans un certain nombre de cas, la chirurgie reconstructrice s'est prise en charge par la sécurité sociale, et dans l'autre cas, ça n'est pas pris en charge. Autrement, j'espère vous avoir prouvé, et sinon je vais continuer à vous le montrer, que la nécessité de restauration de forme et de fonction fait qu'il y a des chirurgies reconstructrices qui sont indissociables de l'esthétique. Alors voici le cas d'une asymétrie mammaire, c'est extrêmement fréquent. Cette anomalie est prise en charge par la Sécurité sociale, alors que fondamentalement, elle n'entraîne pas de gêne, de déséquilibre du dos, à moins que l'asymétrie soit vraiment phénoménale. L'hypertrophie mammaire est également un exemple de chirurgie où il faut être extrêmement esthétique, mais où, conventionnellement, la Sécurité sociale accepte de réaliser une prise en charge, en tout cas jusqu'à présent, étant donné que les grosses hypertrophies, où on résèque 500-800 grammes de sein de chaque côté, peuvent entraîner des signes fonctionnels. Ce sont des gens qui ont moins tendance à faire du sport, à grossir davantage, éventuellement avoir mal au dos. Et donc, la convention a prévu de les prendre en charge. Cette chirurgie se fait avec des cicatrices, nous y reviendrons. En revanche, les ptoses, qui sont plus une anomalie de la peau, sur des seins de volume normal, mais sur une peau très distensible, peuvent être corrigées tout aussi bien, mais conventionnellement ne sont pas prises en charge, tout comme les hypotrophies mammaires corrigées par des implants. Là encore, c'est la même technique que celle qu'on utilisait pour la reconstruction du sein après amputation, mais cette chirurgie n'est pas prise en charge. Alors parlons un petit peu de la chirurgie esthétique du visage, parce que vous l'avez probablement compris, la chirurgie de la face, c'est là où les impératifs de fonction et de forme sont les plus impérieux. On a un exemple historique étonnant par Rembrandt. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'exposition. Rembrandt a réalisé, je crois, plus de 40 autoportraits à tous les stades de sa vie. Combien ? 70. Et on voit donc, c'est un des exemples uniques, où on voit l'altération, alors là, qui est ciblée au niveau des paupières, parce que les altérations du vieillissement au niveau du visage commencent par les paupières. Encore une fois, cette chirurgie esthétique est une chirurgie donc fondamentalement de la forme, mais la fonction est celui d'une nécessité plus ou moins sérieuse, psychologique. Je voudrais préciser à ce stade-là que la population étant vieillissant, enfin, je veux dire, l'âge de durée de la vie s'allongeant de plus en plus, et la vie hormonale des femmes étant maintenue par les substitutions hormonales, il n'est pas illogique de penser qu'on a créé, par le biais de la nécessité de la prévention de l'ostéoporose, par les hormones, une nécessité indirecte de rajeunissement, ou tout au moins pour lutter contre les signes du vieillissement. Alors on va prendre les différents éléments de la face. Les paupières du dessus sont les premières à s'épaissir un petit peu, et la chirurgie du vieillissement vise à essayer de diminuer l'aspect d'excès au niveau des paupières en enlevant de la peau, du muscle et également des petites boules de graisse. Et à la fin, vous avez une grande cicatrice. Là encore, il y a un exemple que je pense assez instructif où la chirurgie réparatrice et la chirurgie esthétique convergent. Voici une patiente qui avait une petite tumeur de la paupière. Il était donc nécessaire de lui enlever. Il eût été dommage de ne pas utiliser un procédé de chirurgie esthétique afin de lui donner l'aspect le plus normal possible. Mais on lui a proposé, étant donné qu'on allait déséquilibrer ses paupières, de lui faire l'autre côté. Et elle a dit « Non, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne me gêne pas ». Elle avait d'ailleurs raison parce que fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est un exemple expérimental où vous avez d'un côté une altération palpébrale sur une paupière non opérée, donc un excès de peau et de muscles, éventuellement de graisse, et l'autre côté, le résultat d'une chirurgie esthétique unilatérale. Entre la différence entre ces deux côtés, vous êtes à même d'apprécier quel est l'effet réel d'une chirurgie esthétique de la paupière supérieure. Un mot à propos des paupières lourdes, c'est que toutes les paupières lourdes ne sont pas synonymes de vieilles, car chez les Asiatiques, c'est une caractéristique ethnique presque constante. Et qu'opérer les paupières supérieures des Asiatiques ne revient pas à les rajeunir, mais à les occidentaliser. En fait, il n'y a pas que la paupière qui rentre en compte pour l'excès palpébral. Nul ni personne ne résistant à la pesanteur et à la gravité, tout descend. Et le front descend. Et ce qui est juste au-dessus de la paupière, c'est le sourcil. Donc une part de l'excès de la paupière supérieure est liée à la descente du sourcil. Et vous voyez sur le dessin du haut, ce qui serait nécessaire d'enlever si on ne corrigeait que la paupière, et ce qu'on peut enlever, c'est-à-dire une partie réduite, une partie liée directement à la paupière et l'autre à la position du front. On a donc introduit en chirurgie esthétique, mais il se trouve que ce qu'on utilisait pour monter les sourcils. C'était la même incision dans les cheveux que celle que je vous ai montrée pour la chirurgie des malformations, et que cette chirurgie des malformations a rejailli sur la chirurgie esthétique. Il est donc possible, en enlevant un tout petit peu de paupières, mais en remontant les sourcils, d'avoir un effet de rajeunissement double, sans exagérer bien sûr, sans avoir des sourcils qui sont montés au milieu du front. Il est important de considérer la position du front en même temps que la position des sourcils. Et bien sûr, les techniques nouvelles et la chirurgie, je pense initialement digestive, endoscopique, est venue en interface avec la chirurgie plastique, puisqu'il est possible désormais de réaliser la chirurgie du front par endoscopie. Alors, je crois que je suis en train d'aller un petit peu trop lentement. Je vous montre quelques exemples où, à l'inverse, on enlève des kystes par l'endoscopie, sans faire de cicatrices externes, en utilisant uniquement quelques petites incisions dans les cheveux. Deux autres exemples extrêmement intéressants, qui sont celui au niveau des paupières inférieures, celui des poches. Et la constatation que lorsque l'on est en position couchée, cela mime de façon presque exacte l'aspect que l'on aura après une chirurgie quand on sera en position debout. Voici une patiente en position debout avant une intervention, la même sur la table d'opération avant de l'opérer. Vous voyez que les poches ont diminué de façon notable. Et après avoir été opéré debout, vous voyez qu'on a pratiquement le même aspect. Donc le simple fait de s'allonger, prendre un miroir, peut vous donner un exemple de ce que vous auriez debout après une chirurgie. Et on peut dériver des techniques qui sont de plus en plus discrètes avec des chirurgies dites transconjonctivales, où il n'y a même pas d'incision au niveau des paupières, et tout se passe par l'intérieur de la paupière. C'est le cas des patientes qui sont jeunes. Un mot sur les rajeunissements avec le fameux lifting, et avec deux exemples. Le lifting signifie en anglais le fait de remonter. Que remonte-t-on ? La peau et les muscles. Voici l'exemple d'une patiente dont les altérations prédominaient de face, vous voyez, avec un excès cutané qui se trouve au niveau latéral. La voici après le lifting. Cette même patiente n'avait pratiquement aucune altération au niveau du cou. À l'inverse, vous avez des patientes, ce sont des patientes, des femmes jeunes, hein, d'environ 50-55 ans, qui n'ont pas d'altération de face en préopératoire, mais pour lesquelles les altérations prédominaient sur le profil. Voici le résultat de ce que peut vous donner un lifting. Alors, le problème dans cette chirurgie esthétique, et là j'approche de la fin de cette conférence, c'est de savoir ce qui doit être fait, comment et jusqu'à quel point. Il est de la responsabilité de votre chirurgien de vous dire ce qu'il est raisonnable ou déraisonnable de faire. Il est évident que chacun de ces gestes, si vous voulez, va à sa propre morbidité et entraîne un certain nombre de risques. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir à l'esprit une attitude qui est la première, de prendre quelqu'un de compétent. Alors il y a 600 chirurgiens qui ont un diplôme en France. Parmi ces 600, nous avons tous eu des problèmes, nous avons tous eu des complications. Il n'y a que ceux qui n'opèrent pas, qui n'ont jamais de complications, comme dit le vieil adage chirurgical. Néanmoins, si vous preniez l'avion, ça ne viendrait à l'idée de personne de prendre un pilote sans brevet. Il est donc possible d'avoir accès, il y en a partout en France, à un chirurgien qualifié. Ce chirurgien a un devoir d'information à votre égard extrêmement extensif. Et depuis l'arrêté du Conseil d'État du 5 janvier 2000, nous avons obligation de vous donner information non seulement sur les suites normales, mais sur les complications fréquentes, voire même exceptionnelles. Et d'ailleurs, l'arrêté du Conseil d'État n'est pas exclusif pour la chirurgie plastique, c'est pour la chirurgie en général. On vous remet un certain nombre de documents et on vous oblige à un délai de réflexion au cours duquel vous pouvez revenir pour prendre une décision. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé. C'est devenu une procédure indispensable, car les complications existent. Personne ne peut vous dire honnêtement qu'il n'y a jamais de complications. J'en ai moi-même eu, les autres en ont, tout le monde en a. Alors, le problème, c'est d'en avoir plutôt un peu moins que le moins souvent possible, et quand on en a, de les gérer, parce qu'elles ne sont toutes pas dramatique. Voici deux exemples de complications simples, celle d'un hématome après un lifting, ce qui oblige à une réintervention dans les 12 heures pour évacuer l'hématome, mais ça veut dire une deuxième anesthésie, ça n'est pas grave, ça ne compromet pas le résultat, mais ça peut survenir dans 1 à 2% des cas. Et voici une complication totalement mineure, mais qui est parfaitement irréversible, c'est celle, après une chirurgie des paupières, d'une différence de couleur de part et d'autre de la cicatrice. Dès que cette patiente aura les yeux ouverts, ça sera invisible. Mais après tout, puisqu'elle n'avait pas l'obligation de faire cette chirurgie, nous avions le devoir de l'informer de la possibilité de survenue de ce problème. Il y a néanmoins des choses totalement irréversibles qui sont proscrites. 1. L'injection directe de silicone dans le corps. Il ne faut absolument pas en faire. C'est bien connu, mais ça se fait encore à l'étranger. C'est totalement proscrit. Pourquoi ? Car c'est irréversible. On ne peut plus enlever ce silicone injectable. Et quand il produit des inflammations importantes, ce sont des douleurs, il n'y a pas de traitement possible. Deuxièmement, dans un certain nombre de cas, toute cicatrice étant irréversible, il faut savoir plutôt choisir entre une technique qui donnera des cicatrices longues, mais qui seront relativement discrètes, à des techniques soi-disant mirifiques, sur lesquelles les cicatrices seront réduites, mais qui se détérioreront beaucoup. Le problème des prothèses en silicone a été largement débattu sur le plan médiatique. Il apparaît aujourd'hui qu'il n'y a aucun argument scientifique concernant le fait que ces prothèses en silicone puissent engendrer un taux de maladie plus important. Néanmoins, devant le débat, l'ablation des prothèses présentes déjà implantées en silicone est prise en charge par la Sécurité sociale. Enfin, les complications psychiques ne sont pas des moindres. J'ai encore combien de temps, M. Michaud ? 5 minutes ? Un peu moins. Les insatisfactions peuvent être nombreuses et c'est la difficulté aussi du métier de chirurgien de savoir dépister les gens qui n'ont pas un profil psychologique adapté à une intervention, car il y en a certains, quoi qu'on fasse, qui seront insatisfaits. Alors cela, il vaut mieux les repérer et pas les opérer. Il y a des apports récents sur les matériaux résorbables, des produits qui se dissolvent pour fixer les os, qui sont totalement résorbables dans le corps en quelques mois. Nous avons à notre disposition des imageries, je crois qu'il y a eu une conférence sur l'imagerie, qui sont de plus en plus sophistiquées. On peut reconstruire l'os, la superposition avec la tissu mou, ce qui nous donne, nous, chirurgiens, des cartes extrêmement précises. Il y a des ordinateurs qui, grâce à ces images, reconstruisent des modèles en résine, par la polymérisation de la résine, par un rayon laser, qui nous donnent des crânes grandeur réelle avant une intervention très complexe pour pouvoir simuler notre intervention. Tout ça sont des apports extrêmement nouveaux. Les substituts cutanés, qui sont des peaux d'attente totalement artificielles, en attente de la greffe. Les grandes perspectives. Nous avons vu ces transferts, nous avons vu ces élongations, ces distractions, ces lambeaux. Nous avons vu ces cultures de tissus au laboratoire. La grande perspective, ce sont l'induction des nouveaux tissus directement dans le corps. Et je ne vous donnerai qu'un seul exemple. Voici un crâne de lapin dans lequel on a fait 2 trous. L'os ne régénère pas, surtout quand il a une taille critique. D'un côté est déposée une goutte d'une substance, un facteur de croissance, qui est une protéine élaborée. Et en quelques semaines, vous voyez la cicatrisation des tissus directement. Et l'association de ces facteurs de croissance avec éventuellement d'autres biomatériaux vous permet d'obtenir des cicatrisations sur différents tissus. L'os, notamment, ne sera plus un problème, je pense, dans quelques années. Le problème qui reste, c'est la reconstitution nerveuse. Il y a énormément de travaux, mais ça reste un problème. Et je pense, malgré tout, qu'on peut être optimiste et que dans quelques années, il y aura des solutions. Alors, pour terminer, j'ai choisi, puisque j'avais commencé par lui, de reprendre une phrase d'Ambroise Paré dont la grandeur chirurgicale est immense. Et avec ces mots de l'époque, il fait preuve d'une extrême humilité. Je pense que même si les concepts ont changé, les philosophies ont changé, les religions sont multiples, je pense que nous avons, nous chirurgiens, un devoir d'humilité extrême. Car tout acte chirurgical, même pratiqué avec douceur, est une agression et que nous avons le devoir de vous faire prendre le moins de risques possible. Néanmoins, nous vous en faisons courir, et nous avons tous comme exemple, malheureusement, des cas où on était très sûr de nous et des problèmes sont arrivés, et d'autres cas qui paraissaient désespérés et où on avait des récupérations extraordinaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Questions, mais...
Je peux m'asseoir un peu ?
Est-ce que les cicatrices kéloïdiennes sont prévisibles ?
Je peux répondre directement, oui. Non. Non, elles ne sont pas prévisibles, monsieur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une cicatrice kéloïdienne, c'est une cicatrice pathologique, c'est-à-dire qu'à l'endroit où il y a eu l'incision sur la peau, la cicatrisation se fait de façon excessive jusqu'à devenir quasiment ce qu'on appelle une pseudo-tumeur. Ça peut être notamment sur les peaux génétiquement prédisposées, c'est-à-dire les peaux pigmentées, les peaux noires, réaliser des boules de cicatrisation extrêmement importantes. Alors si on n'a jamais été opéré, c'est difficile à prévoir. Si on a déjà été opéré et qu'une cicatrice kéloïde s'est produite à un autre endroit du corps, on peut craindre qu'à l'occasion d'une nouvelle incision, on ait également une cicatrice kéloïde. Mais il y a des cas tout à fait étonnants où à certains endroits du corps, chez le même individu, la cicatrisation se fait bien, et à d'autres endroits, je pense par exemple au sternum, derrière l'oreille, l'épaule, il y a des endroits où les cicatrisations peuvent être kéloïdes, sans prévision.
Oui, justement, sur les cicatrices, quel en est-il des traitements de laser ?
Ah, écoutez,
c'est et en particulier sur les taches brunes.
Bon, les cicatrices, il faut avoir à l'esprit quand même qu'elles sont toujours là. Il n'y a aucun moyen de faire une intervention sans faire cicatrice. Enfin, s'il y en a un, ça a été fait... Bien sûr. Il y a un moyen d'avoir une cicatrisation sans cicatrice, c'est la cicatrice réalisée chez le fœtus. Et quand on fait de la chirurgie in utero, on a des cicatrisations sans cicatrice. Après, c'est variable. Alors, c'est variable selon génétiquement le patrimoine génétique d'un individu. La localisation, il y a des endroits qui cicatrisent mal. Alors, les paupières, normalement, cicatrisent par exemple très très bien, mais la région sternale, très mal. La révision par laser est une possibilité, mais qui ne règle pas tous les problèmes, parce qu'on recrée un traumatisme à un endroit, une cicatrice, et ça peut réengendrer un processus cicatriciel pathologique.
Vous avez parlé de personnes mortes après une liposuction.
Oui, madame.
Lorsqu'il y a coma, est-ce qu'il y a des séquelles très graves ou bien les choses se passent simplement
Écoutez, dans la je ne peux pas répondre de façon générale à votre question, tout dépend de la cause du coma.
L'hyposuction
Oui, mais quand on a un coma à la suite d'une anesthésie, ça peut être simplement une anesthésie, ça peut être une allergie à un produit anesthésique, ça peut être un saignement trop important, ça peut être un arrêt cardiaque pendant l'intervention, ça peut être une embolie de graisse, tout dépend de la cause qui va provoquer le coma. Et ça dépend aussi de l'individu chez qui ça arrive. Si c'est quelqu'un de plus jeune, il aura une meilleure récupération que quelqu'un de plus âgé.
50 ans.
Je ne peux pas répondre de façon précise, si vous voulez, mais la lipoaspiration, qui est un geste qui est extrêmement répandu, n'est pas la plus anodine des chirurgies. Mais et la gravité d'un coma dépend de sa cause.
Oui, si il dure depuis 5 mois. Est-ce que ça veut dire que ça risque de durer très longtemps ?
Mais écoute, on peut le craindre.
On peut le craindre.
On peut le craindre. 5 mois, c'est déjà très long.
Oui, au cours de votre conférence, vous avez parlé des cerveaux d'hommes ou de femmes qui ne sont pas apparemment dans de bons corps et oui. À qui on change le sexe pour les mettre en harmonie psychique.
Oui.
Ce qui va naturellement à l'encontre de leur nature physique. N'est-il pas plus intéressant et moins traumatisant pour le sujet malade d'agir plutôt psychologiquement sur son cerveau pour en faire un vrai homme ou une vraie femme ?
Vous avez tout à fait raison, monsieur. Je ne sais pas qui pose la question, je ne vois pas. C'est ce monsieur qui est là. Vous avez tout à fait raison, bien évidemment. C'est ce qu'on souhaiterait. Et c'est pour la raison pour laquelle le diagnostic de transsexualisme est un diagnostic psychiatrique, essentiellement. Ce sont les psychiatres qui décident, oui ou non, s'il s'agit d'un cas de transsexualisme vrai. Maintenant, vous avez raison qu'il est vraisemblable qu'il y ait une substance chimique derrière et que si on connaissait cette substance chimique et qu'on arrive à agir, on agirait sur la cause. Vous avez totalement raison. La chirurgie de modification de sexe du transsexualisme est une chirurgie palliative. C'est ce que j'avais expliqué.
Allô ? Bonjour, monsieur. Je voulais vous demander la reconstitution d'un muscle, entre autres le psoas.
D'un quoi, pardon ?
D'un muscle.
Oui.
Entre autres le psoas, qui est bousillé sur plus de 20, nécrosé sur plus de 25 cm. Ça fait partie de la chirurgie esthétique ou d'une autre chirurgie, ça ?
Écoutez, le problème, si vous voulez, concernant la forme, quand on a, alors pour ceux qui ne savent pas, le psoas c'est un muscle qui tient la colonne vertébrale et qui va de la racine de la colonne vertébrale vers la racine de la cuisse,
oui.
Qui sert à faire ce mouvement-là. hein, c'est ce muscle-là. Il peut être altéré généralement par des abcès ou des hématomes, hein, c'est souvent...
Oui, c'est ça.
Ça n'est pas vraiment du ressort de la chirurgie plastique, dans le sens où le contour du corps qui souffre d'une destruction du psoas n'est pas du tout altéré. Maintenant, si jamais il fallait reconstituer un psoas, on serait amené à utiliser probablement une technique de chirurgie réparatrice, c'est-à-dire un transfert de muscle. Je ne crois pas que ça engendre, sauf erreur de ma part, une séquelle suffisamment grave pour justifier d'une intervention aussi complexe. Mais c'est sûr que de ne pas avoir de psoas, c'est un handicap.
Ah oui, mais il existe en partie. Hein. Il existe sur le...
Merci. Je voulais vous demander, dans le pourcentage des greffes réalisées, est-ce qu'il y a donc des suites lourdes ou légères, si je peux m'exprimer ainsi? Et d'autre part, est-ce que ça induit obligatoirement un suivi? Ou est-ce qu'une fois, qu'elle a été réalisée, on en est complètement, on l'a oublié pour le restant de ses jours?
Bon, il y a deux versants dans votre question. Ce n'est pas une grosse intervention de réaliser une greffe de peau. Je pense que c'est une greffe de peau dont vous parliez. Alors, tout dépend. Entre faire une petite greffe de peau sur le bout du nez, si vous voulez, et aller transférer un morceau d'os, une côte sur le crâne, ce sont des interventions qui sont très différentes. Mais sur le principe de votre deuxième question, toute intervention nécessite un suivi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, également dans la chirurgie esthétique, il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que, à vie, quelques années, si vous voulez. Bon, quand il ne s'est rien passé pendant 4-5 ans, généralement, ça perdure. Hein. Mais bon, sur vous dire les greffes en général, alors que ça peut être très hétérogène comme intervention, mais en gros, il faut qu'il y ait toujours un suivi. Néanmoins, quand c'est une autogreffe, et que ça fait partie de soi, ça devient une nouvelle partie du corps humain, on n'y pense plus. Hein. Ça fait vraiment partie de soi.
J'avais une question à vous poser, docteur. Je suis là, sur votre droite. Hélas.
Sur ma droite.
Hélas, sur votre droite.
Ah, pardon.
C'est moi.
Je suis ébloui par le projecteur.
Moi, j'ai travaillé, j'ai été moi-même à Garges pour un accident de moto. Bon, et je peux vous dire que j'en ai vu des gars trépanés. Mais les gars trépanés, le problème de la trépanation, c'est une chirurgie de reconstruction. Ça comporte des effets négatifs sur l'esthétique. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les
trous de trépan,
les séquelles physiques des gars trépanés? Il faudrait que je téléphone à Garches. C'est au pavillon Vida 1.
Oui, j'étais interne à Garches, monsieur. Je connais. Oui.
Dans quel pavillon?
J'étais. Je me souviens plus du pavillon. J'étais à Garches chez les grands handicapés.
Non. Il n'y a que ça à Garches.